France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Jimmy Lai a été condamné à 20 ans de prison cette semaine. Le militant pour la démocratie, l'homme de presse, dissident hongkongais, le plus connu, le plus symbolique, une manière pour Pékin de clore définitivement le chapitre démocratie et sans faire de bruit. Nous en parlons avec Pierre Aski. Les dirigeants européens sont en retraite en Belgique, dans un château. À quoi ça sert ce format inédit? Frédéric Seyss nous le dira en remet dans le monde à l'endroit. Le reportage est au Maroc ce soir devant des champs de cannabis à perte de vue. Et si c'est culture devenait légale. C'est un pari que tiennent les producteurs de cannabis.
La plante que vous voyez ici, elle va servir à fabriquer des médicaments. On ne va plus la vendre aux trafiquants. Avant, on travaillait en cachette. On subissait le regard des gens. On te considérait comme un criminel.
Un reportage à découvrir autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé la Hongrie, où Viktor Orban, en difficulté avant les élections, fait tout pour disqualifier l'opposition. Et puis juste avant 19h, dans la Tech la première, Stéphane Jourdain nous racontera que l'attention des jeunes gens devant un film est tellement courte que ça en change désormais l'industrie tout entière. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
I think it's a good idea anytime, any situation to fight for your freedom. Because without freedom, you have nothing left.
Je pense que c'est une bonne idée de se battre en toutes circonstances pour la liberté, parce que sans liberté, il ne nous reste plus rien. C'est Jimmy Lai qui parle, interviewé par CNN, c'était en 2020, donc juste avant son arrestation. Bonsoir Pierre Aski.
Bonsoir Fabienne.
Vous avez longtemps été correspondant en Chine, vous êtes chroniqueur évidemment chez nous à France Inter et aussi président de RSF, et c'est à tous ces titres-là qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Vous allez nous le raconter parce que vous l'avez rencontré évidemment, Jimmy Lai, à de multiples occasions peut-être d'ailleurs.
Oui, tout à fait, c'était un personnage incontournable à Hong Kong dans les années où j'y allais, quand son journal était vraiment une des références du territoire.
Et bien justement, puisqu'on parle de journal, il fallait tourner les pages des journaux cette semaine pour savoir que Jimmy Lai avait définitivement été condamné. Il fallait se souvenir de cet ancien mania de la presse, militant pour la démocratie. Vous ne l'aviez pas oublié, bien sûr, mais est-ce que c'est pas ça la vraie victoire de la Chine, Pierre Aski? Les manifestations ont été réprimées, on n'en parle absolument plus. Hong Kong a été mis au pas, tout le monde est soit en prison, soit exilé à Taïwan, et tout ça presque sans un bruit.
Oui, c'est évident, la Chine a gagné la partie à Hong Kong. Vous savez, j'étais à Hong Kong en 97, lorsqu'il y a eu la rétrocession. Mmh. Il y avait un optimisme incroyable dans le territoire. Les Hongkongais ont cru à la promesse de Pékin, c'est-à-dire 50 ans d'autonomie. Mmh. Ça n'a duré que 25 ans. Et au bout de 25 ans, Hong Kong a été, comme on disait autrefois en Europe de l'Est, normalisé, c'est-à-dire réduit au silence. Il y a des dizaines de milliers de Hongkongais qui sont partis à l'étranger, qui sont principalement au Royaume-Uni. Et il y a des centaines de prisonniers politiques aujourd'hui à Hong Kong.
Ça veut dire que c'est une histoire de trahison, Hong Kong, en fait. Parce que vous le disiez, on promet l'autonomie pour 50 ans. Enfin, il y avait ces mêmes Xi Jinping qui disaient cette phrase, deux systèmes, un seul pays.
Oui, c'est Deng Xiaoping qui avait lancé l'idée lorsqu'il avait signé l'accord avec Margaret Thatcher en 1984. Et tout le monde y a cru. Parce que la Chine était la puissance montante, son intérêt économique était que Hong Kong prospère, et donc tout le monde avait cette rationalité qu'il ne faut pas avoir dans ce genre de circonstances, qui est de se dire, puisque c'est l'intérêt de la Chine, elle va respecter ses engagements. Lorsque elle a été mise devant le fait accompli de manifestations de masse qui réclamaient le respect des accords, elle a réprimé.
À Babri aussi, Pierre, les grandes voix internationales, il fut quand même une époque, ça a été le cas d'ailleurs pendant la révolution des parapluies, ça a été le cas aussi lorsque les manifestations ont été plus importantes et qu'elles ont été réprimées, il fut une époque où les chancelleries quand même auraient au moins condamné, là même pas venant du Royaume-Uni, donc avec cette relation particulière qui reste quand même avec le Royaume-Uni aujourd'hui. Keir Starmer était en Chine,
il y a
quelques jours seulement.
Et Donald Trump s'apprête à y aller au mois d'avril.
Donc ça veut dire que, disons-le comme ça, on s'en fout de Hong Kong, enfin, que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous tous.
Soyons clairs, je pense que la problématique des droits de l'homme a fortement régressé dans la hiérarchie des préoccupations mondiales. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'a pas prise sur la Chine. La Chine est devenue une puissance économique et politique majeure, et donc les chancelleries ne font même plus semblant. On fait des communiqués qui sont quasiment des automatismes et on sait qu'on ne pèsera pas. Le seul qui peut éventuellement peser, c'est évidemment Donald Trump, mais on sait très bien que les droits de l'homme ne sont pas sa principale préoccupation. Peut-être que la Chine fera un geste lors de la visite de Donald Trump ou juste avant, mais on est dans l'arbitraire total, c'est-à-dire que sa condamnation est arbitraire et sa libération éventuelle sera également arbitraire.
On imagine ça, un échange, une clémence, une demande, un geste, ou bien au contraire, en fait, c'est tellement une manière pour la Chine de dire « je suis chez moi, je fais ce que je veux » et de toute façon, regardez, personne ne dit rien.
Le problème, c'est quel est le sens de cette condamnation ? C'est de montrer aux Hongkongais, mais aux 1,4 milliard de Chinois en général, qu'on perd à chaque fois qu'on essaye de se dresser contre le Parti communiste. C'est ça la leçon. Et donc, ça n'incite pas véritablement à avoir un geste de clémence immédiatement après, parce que si vous vous dites qu'une condamnation à 20 ans de prison ne dure que quelques mois, ça n'a pas de sens. Donc oui, c'est terrible de penser ça, parce que Jimmy Lai a 78 ans.
Donc c'est une condamnation à perpétuité.
C'est une condamnation à mourir en prison, c'est ce qu'a dit son fils Sébastien.
Je voudrais que vous nous rameniez aux manifestations, Pierre Aski, en fait. Comment ça a commencé, ce qu'on y a vu, parce qu'on a un peu la mémoire courte, et surtout, à quel moment, à Hong Kong, on sent que ces manifestations sont existentielles, en fait, et quand ça s'arrêtera, ils le savent déjà à ce moment-là, probablement il y a 5 ans, quand ça s'arrête, c'est la fin.
Vous savez, il s'est passé quelque chose d'assez étrange à Hong Kong, c'est que la première manifestation de contestation, elle est venue de la génération qui était née après la rétrocession. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce personnage, il avait fait la une du Point, il était partout, Joshua Wong. Il avait 15 ans lorsqu'il avait tenu tête à un ministre. Il y avait un petit côté Cohn Bendit en 68, vous savez, qui dit ses quatre vérités à un ministre devant les caméras de télé. Et Joshua Wong a pris la tête d'un premier mouvement de contestation qui n'a fait que croître parce que les Hongkongais, dans leur grande majorité, puisqu'il y a eu des manifestations avec un tiers des 6 millions de Hongkongais dans la rue quand même, c'était colossal. Réclamer l'élargissement des droits démocratiques auxquels ils avaient droit dans les textes de la rétrocession. Et c'est là que la machine s'est grippée. C'est lorsque le gouvernement a voulu imposer des lois de sécurité et refuser de l'autre côté d'élargir le champ démocratique. Et à ce moment-là, toute la société hongkongaise s'est mise en branle. Et quelqu'un comme Jimmy Lai était au cœur de ça, parce que c'est un personnage très atypique. C'est un tycoon, comme on dit à Hong Kong, c'est un milliardaire. Moi, je suis allé chez lui sur les hauteurs de Hong Kong, mais il avait une vie de milliardaire, avec une villa, avec une vue sur la baie de Hong Kong, sur tous ceux qui sont allés là-bas.
Sublime.
Ça, c'est un des plus beaux endroits au monde. Il y avait des vases Ming dans son salon à plusieurs millions de dollars pièce. Et pourtant, cet homme s'est engagé pour la démocratie, là où tous les autres tycoons jouaient le jeu de Pékin parce qu'ils voulaient des contrats et ils voulaient favoriser leur business. Et cet homme est devenu un symbole parce qu'il avait un journal qui s'est de plus en plus engagé dans le mouvement démocratique. Il a pris des risques et il a payé. Et il savait qu'il allait payer.
Est-ce que vous pensez que la Chine a eu peur à un moment ?
Oui, la Chine a eu peur parce qu'il y a eu des manifestations absolument colossales qui dépassaient en nombre, en volume, etc. Ce qui s'était passé à Tiananmen en 1989 à Pékin. Et là, le régime avait eu peur. Et donc à Hong Kong, oui, ils ont eu peur et c'est pour ça que la répression a été aussi dure. C'était un défi qu'il ne fallait pas laisser ni gagner, ni même durer, parce que il risquait à ce moment-là de contaminer le reste de la Chine si le pouvoir était vu comme étant dans l'impasse.
Ce qu'on lit aujourd'hui, et vous nous l'avez déjà évoqué, vous l'avez déjà évoqué, Pierre, ce qu'on lit, et notamment sous la plume de Nathan Lowe d'ailleurs, qui est aussi un dissident, mais qui vit à Londres et qui l'écrit dans le Guardian il y a un jour ou deux, et il dit que la société civile a renoncé en fait et ne dit rien non plus. Et alors on peut pas la blâmer, mais oui, la société civile a renoncé aujourd'hui, Pierre Aski, ou est-ce qu'un jour on verra émerger émerger une Gen Z hongkongaise, comme on la voit émerger sporadiquement un peu partout dans le monde.
Oui, je pense que c'est temporaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la loi sur la sécurité de Hong Kong est extrêmement rigoureuse, et elle promet la prison à vie à toute personne qui se livrerait au moindre slogan ou au moindre geste hostile. Donc effectivement, les gens se taisent, même s'ils n'en pensent pas moins. Il y a aussi la réalité de la répression. La presse indépendante a été muselée. Le journal de Jimmy Lai a fermé ses portes il y a déjà plusieurs années. Tous les cadres de son journal sont soit en exil, soit en prison. Ils étaient dans le procès avec lui et ils ont été condamnés à de lourdes peines. Donc les moyens de s'exprimer sont très faibles. Le syndicat ou l'union des journalistes de Hong Kong n'a pas dit un mot lorsque Jimmy Lai, patron de presse, a été condamné à 20 ans de prison.
Et puis après, objectivement, il y a aussi business as usual, non, à Hong Kong. C'est une ville qui vibre, c'est une ville d'argent, c'est une ville de business également. Et ça se poursuit.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où les Hongkongais ont surpris le monde en étant à la fois une ville de business et une ville de contestation démocratique. Les deux ont cohabité dans la même ville, chez les mêmes personnes, pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, évidemment, le gouvernement encourage la partie business, donc Hong Kong joue sa carte de plaque tournante de l'Asie du Sud-Est, elle est au carrefour de plusieurs zones de business en Asie, et le prix à payer pour cette réussite économique, c'est de se taire.
J'imagine que vous n'y êtes pas retourné évidemment depuis un bout de temps. Je voudrais savoir, est-ce que vous en avez une idée? Est-ce que ça sent dans la rue, dans Hong Kong désormais, qu'il s'est passé quelque chose? Et qu'en effet, il y a eu un Hong Kong qui aujourd'hui est fermé, fini, terminé, aujourd'hui dans un autre Hong Kong. Est-ce que ça se respire ça ou
pas? Je pense qu'un visiteur à Hong Kong aujourd'hui ne le sent pas. Et c'est la force de la Chine, d'une certaine manière, que vous soyez à Pékin ou à Hong Kong, vous ne sentez pas le poids de la surveillance, de la répression, de la peur de dire un mot de travers. Et c'est hélas la réalité du système chinois qui s'est aujourd'hui étendu totalement à Hong Kong.
Parce que ça parle aussi de la patience de Pékin, de la patience de Xi Jinping, enfin pour avoir le Tibet, il a fallu 20 ans et à la fin, le Tibet est chinois. Pour avoir Hong Kong, il a fallu être patient aussi, faire des promesses, dire des mensonges, attendre, et puis paf, maintenant c'est le cas. Donc est-ce que ça nous parle aussi potentiellement même de Taïwan où on attend patiemment, c'est pas le moment, faire une guerre maintenant stratégiquement, c'est pas une bonne idée, mais de toute façon, on ira. En creux, ça nous dit tout ça de la Chine, non, Pierre Aski?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on est à Taïwan, on sent qu'il y a eu un tournant pour les Taïwanais lorsqu'ils ont vu la répression à Hong Kong. La répression à Hong Kong a été un déclic pour eux de comprendre qu'aucune des promesses de Pékin ne tiendrait, puisque la Chine a promis, a proposé, pour l'instant c'est qu'une proposition, à Taïwan le même système, un pays de système, donc une autonomie. On leur a dit, vous voulez garder votre démocratie, vous pouvez la garder, mais revenez dans la mère patrie.
Voilà.
Et les Hongkongais,
sauf qu'on a fait le coup une fois, on ne prend pas deux.
Se disent, ben voilà, on ne nous aura pas.
En fait, je vous entends décrire ça et décrire ce que vous disiez de Hong Kong, tout ça c'est très triste en fait, Pierre Aski. Enfin, c'est une histoire de tristesse, de chagrin même.
C'est très triste et c'est un peu à l'image du monde aujourd'hui, il faut bien le dire. Et quand on est à Taïwan aujourd'hui, on a à la fois cette démocratie très, très vivante, très forte, une économie très prospère aussi, il faut bien le dire, à Taïwan. Et en même temps, ils ont ce sentiment d'être de moins en moins porteurs de valeurs qui sont respectées dans le monde, parce que leur protecteur, ben c'est qui? C'est Donald Trump aujourd'hui. Et on sait que le roi du deal pourrait très bien faire un deal à leurs dépens. Et donc, ce qui s'est passé à Hong Kong est un symbole très fort, mais de quelque chose qui est beaucoup plus large et qui menace aujourd'hui beaucoup de gens en Asie, mais pas seulement.
Mais ça veut dire que si demain, il se passait quelque chose à Taïwan et qui peut ne pas être du domaine d'une guerre ou etc., mais enfin une pression encore et supplémentaire, en souvenir d'Hong Kong, en se souvenant d'Hong Kong, les Taïwanais se diraient c'est bon, c'est fini? Ou est-ce que, au contraire, ça a généré un esprit de résistance, à votre avis?
Ça a généré un esprit de résistance, mais ça pourrait aussi, à un moment, les faire baisser les bras si... si le rouleau compresseur est trop fort. À Hong Kong, il y avait une chose qui était extraordinaire, c'est que c'était le seul endroit du périmètre chinois où les événements de Tiananmen en 89 étaient célébrés chaque année. Il y avait 250 000 personnes qui se retrouvaient en plein air pour commémorer les victimes de la place Tiananmen. Et puis, ça a été une des premières choses interdites après l'imposition de ces lois sur la sécurité. Et ce passage de témoins comme ça, du continent vers Hong Kong, puis de Hong Kong vers Taïwan, montre qu'il se passe quelque chose et que cette petite lumière, elle s'éteint progressivement. Et ça, c'est terriblement triste.
J'aurais préféré finir sur quelque chose de plus optimiste, mais je ne vois pas très bien où on aurait pu aller le chercher sur ce thème-là. Pierre Aski, je vous remercie.
Merci.
Vraiment beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. La suite, c'est vous, Frédéric Seix, et vous remettez le monde à l'endroit.
Ne dites plus Conseil européen, mais retraite informelle. Les 27 dirigeants réunis dans un château en Flandre aujourd'hui, mais au fait, pourquoi faire ?
Eh bien, c'est juste après ça.
Cells and your cells need minerals. Try to make a map of the heart. Down your hollow tube. I hope to find a small flat joy will.
Voilà, au pressing, c'est de là, c'est quand même pas possible. Les jeunes gens de nettoyage à sec, dry cleaning, la chanson s'appelle Joy. Et c'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Frédéric Seix.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et Frédéric, ça n'est pas un séminaire d'entreprise, mais ça y ressemble.
Une journée de cohésion et de réflexion. Nous sommes à mi-chemin entre le séminaire d'entreprise et la retraite spirituelle. Bienvenue au château d'Aldenbizen, dans l'est de la Belgique. Des douves, quatre tours et un toit en ardoise. D'ailleurs, en parlant d'ardoise, les dirigeants doivent débattre des finances, comment investir, comment rendre plus compétitive l'économie européenne. Bonne question, mais alors me direz-vous, quel besoin pour y répondre de se retrouver dans une bâtisse du XVIIIe siècle en Flandre orientale? Est-ce que les bâtiments du Conseil européen au cœur de Bruxelles n'auraient pas suffi à accueillir cette auguste réflexion collective? Bref, pourquoi faut-il une mise au vert pour sauver une économie qui est dans le rouge?
Donc vous avez l'air assez sceptique, Frédéric, sur cette retraite informelle des 27.
À première vue, c'est vrai qu'on est tenté d'y voir une grosse ficelle de communication, tous ces présidents, ces premiers ministres qui mettent en scène une proximité factice, alors même qu'ils sont à couteau tiré sur le fond des dossiers. On croirait presque un remake de la rencontre informelle, elle aussi, entre Valéry Giscard d'Estaing et Gerald Ford, le président américain, discussion en Martinique au bord d'une piscine, la photo est restée célèbre. C'était en décembre 1974. Officiellement, il s'agissait de débattre des bouleversements économiques après la crise pétrolière. Préoccupation quasi similaire, aujourd'hui au château dans les Flandres, à ceci près que les dirigeants européens sont plus nombreux et qu'ils ont gardé leurs vêtements. Cela dit, plus sérieusement, cette escapade à 27 n'est pas aussi superficielle qu'elle y paraît, car les relations personnelles, voire l'amitié, eh bien ça aide à débloquer des compromis pour négocier l'appréciez vite et bien, mieux vaut connaître votre voisin de table, et si vous l'appréciez, alors c'est en général plus facile. Or, ce n'est pas vraiment aisé de tisser des relations dans un Conseil européen. Le casting change en permanence. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais au gré des élections, certains dirigeants sont battus et s'en vont, d'autres sont élus et arrivent. Rien que cette année 2026, en Europe, il y aura 10 scrutins majeurs dans les pays européens. Il n'est donc pas superflu pour les chefs de gouvernement de faire connaissance et pourquoi pas d'instaurer la confiance.
Et alors ce genre de sommet informel, Frédéric, a d'ailleurs débloqué la relation entre la France et l'Allemagne.
Il y a 25 ans, les relations étaient d'abord exécrables entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder. Le chancelier de gauche et le président de droite n'arrivaient pas à s'entendre. Confiance rompue. Le sommet de Nice, juste avant, avait été une catastrophe absolue. Alors, décision a été prise de mettre au vert les deux dirigeants en tête à tête, sans conseiller, sans ministre. Ce sera dans un village alsacien à Blechheim, au restaurant, autour d'un bon repas. Alors évidemment, tout ne se règle pas avec des agapes, mais à partir de là, comme le raconte l'ancien ambassadeur à Berlin, Claude Martin, Chirac et Schröder décrispent leur relation. Ils décident de se voir tous les deux mois sur ce mode informel, à tel point qu'on se met à parler du format de Blechheim. Et peu à peu, les deux hommes deviennent le couple moteur de l'Europe. Alors, le rapprochement des points de vue rivaux vaut bien un séminaire au château.
Merci beaucoup Frédéric Seyss. À demain, le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour au Maroc. Ce soir, nous sommes au nord, dans les montagnes du Rif, une région pauvre, vous le savez, laissée le plus souvent à son sort. Et ce que l'on voit à perte de vue, ce sont des champs de cannabis. C'est d'ici que partent chaque année les tonnes de shit qui sont fumées chez nous. Le Maroc est le premier producteur de la planète, une économie illicite et informelle dont les principaux bénéficiaires étaient jusque-là les narcotrafiquants. Mais ça pourrait bien changer. En tout cas, c'est ce que veulent les autorités marocaines, qui ont entrepris de faire émerger un secteur légal, avec agriculteurs, coopératives de transformation, exportateurs. C'est une nouvelle filière qui se déploie. Et le reste, c'est Mathias Rénal qui raconte.
Depuis Tanger, il faut rouler 2h30 pour atteindre le village d'Irerman. Un sentier serpente au milieu des montagnes. De chaque côté, des oliviers, du blé et plus loin, des plants de cannabis, dont les feuilles pleines de chlorophylle se déploient sous un soleil de plomb.
Cette parcelle-là, c'est la variété locale, la Beldir. D'ici deux semaines, on viendra la nettoyer, enlever les mauvaises herbes. Et puis, dans deux mois, elle sera prête, on pourra récolter.
Najib, 38 ans, cultive du cannabis légal.
La plante que vous voyez ici, elle va servir à fabriquer des médicaments. On ne va plus la vendre aux trafiquants. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. C'est un sentiment indescriptible. Avant, on travaillait en cachette. On subissait le regard des gens. On te considérait comme un criminel.
La loi 1321, adoptée il y a 5 ans, autorise la culture de cannabis à des fins médicales ou industrielles.
Mes conditions de travail ont beaucoup changé. Je me sens enfin considéré comme un être humain, avec une valeur. Je sais que je peux travailler dignement, que je vais recevoir la rémunération que je mérite. Avant, on travaillait avec des gens qu'on ne connaissait pas. On était à leur merci. Ils pouvaient nous voler la récolte, le fruit d'une année de travail.
Le cannabis légal suscite un réel engouement. En 2025, plus de 5500 agriculteurs l'ont planté. C'est 13 fois plus qu'en 2023. Mais les paysans sont loin d'être tous convaincus. Plus de 80 000 familles vivraient du cannabis au Maroc. La production illégale domine, plus lucrative. Le visage encadré par un bonnet et une barbe fournie, un look de vieux hipster, Jaber El Hababi s'est lancé dans le chanvre légal et a cofondé la coopérative de transformation Biocanat.
Alors Biocanat est la première unité à être construite dans la région, dans les champs. Pourquoi ? Parce qu'il fallait créer un écosystème où l'agriculteur devait être roi, devait être le maître des lieux. Dans ce monde d'illégalité, l'agriculteur est uniquement là pour travailler, c'est un esclave. L'agriculteur n'est souvent pas payé.
Plusieurs années après son lancement, le secteur reste embryonnaire. Le cannabis légal souffre de lourdeurs bureaucratiques et du manque de débouchés commerciaux.
Il faut un peu de temps. C'est passer de l'illégal au légal, je pense que ça va être lent. Mais il y a un véritable secteur qui va s'ouvrir et qui va se construire dans le nord du pays. Le nord du pays va complètement changer.
En 2024, un geste très symbolique a accompagné le processus de légalisation. Plus de 4800 cultivateurs de cannabis condamnés, poursuivis ou recherchés par la justice marocaine ont été graciés par Mohamed VI. À Irerman, le café du village offre un panorama de rêve sur les montagnes du Rif. Assis en terrasse, Mohamed sirote un expresso.
Je suis un paysan du secteur légal. Les gens comme moi sont tranquilles. Je dors sur mes deux oreilles maintenant. Avant, j'avais peur quand j'entendais une Jeep.
Mohamed sort de sa poche un papier. C'est son dernier billet de sortie. Il a fait de la prison.
7 fois. Que tu cultives ou pas, si tu as un problème avec quelqu'un, il peut te dénoncer. Moi, j'ai vécu en cavale pendant longtemps, 17 ans.
Faire du cannabis un produit légal, le défi que s'est lancé le Maroc est ambitieux. Il s'avère complexe dans cette région enclavée et déshéritée du Rif, où la population a pendant longtemps vécu de cette économie informelle.
Mathias Reynal pour le reportage, merci beaucoup. La suite, c'est ce que vous ramenez de sous les radars, Guillaume Audin.
L'Arménie qui fait la nique à Moscou, enfin presque. En tout cas, Erevan fait les yeux doux à Washington.
Allez,
fait
la tech la première avec vous, Stéphane Jourdain.
Et vous, êtes-vous capable de ne pas regarder votre téléphone pendant toute la durée d'un film ?
Non. A tout de suite, restez avec nous. Le tour de la planète passe par la Norvège avec un duo formé au lycée. Ils ont appris à jouer de la guitare ensemble en écoutant Pink Floyd, les Kings of Convenience, Boat Behind. C'est le choix musical de Chewbacca.
So we meet again after several years of separation, moving on, moving around. Did we spend this time chasing the other's tail? Shuffling walls. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line.
Dans les Kings of Convenience, Boat Behind, dans Un jour dans le monde et sur France Inter. Et puis sur les radars, c'est droit devant avec Guillaume Audin. C'est Viktor Orban qu'on entend, dernier clip de campagne à date en Hongrie. Et il dit ceci, l'armée ukrainienne représente un énorme danger, on croirait entendre Vladimir Poutine.
Tremble, Viktor Orban. À 2 mois, jour pour jour du premier tour des élections générales, le Premier ministre hongrois traverse une passe très compliquée, très difficile. Pour la première fois, le Fidesz, son parti, est donné battu dans les sondages. Vous me direz qu'à 60 jours du scrutin, l'homme fort de Hongrie est au pouvoir depuis 15 ans. Orban conserve encore un peu de marge, mais chaque enquête d'opinion confirme désormais la précédente et porte au nu son adversaire, un certain Peter Miagia, retenez son nom, tout l'oppose à Viktor Orban, Europe, rapport à la démocratie, mais surtout Russie. Alors pour le contrer, Orban a changé de stratégie, Miagia, dit-il, n'est qu'un pantin du grand complot européen, exactement comme on dit au Kremlin. Ajoutez à cela des tentatives de déstabilisation orchestrées par ses fidèles, une vidéo intime du candidat d'opposition pourrait être dévoilée, mystère, Peter Peter Maguire dénonce des méthodes d'arrière-garde. La fin de campagne s'annonce brûlante du côté de Budapest.
Unfortunately, we had a private meeting earlier and we solved all the issues we needed to solve. So this meeting is totally unnecessary.
Un trait d'humour donc signé Jedi Vance, le vice-président, tout en détente à Erevan. Première visite à ce niveau-là d'un Américain en Arménie.
Oui, jamais un président américain en exercice ou même son vice-président n'avait foulé le sol de l'Arménie. C'est donc désormais chose faite avec Jedi Vance, prélude peut-être à une visite de Donald Trump, mais ce n'est pas à l'agenda et ça n'est pas forcément pour demain non plus. Ce qui s'est joué à Erevan, en revanche, est historique. Les États-Unis et l'Arménie ont signé un accord de nucléaire civil. Washington a officiellement ouvert la voie aux investissements américains dans ce pays. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Arménie, on était jusqu'alors clairement dans l'arrière-cour de Moscou, mais les ambiguïtés du Kremlin pendant la guerre du Haut-Karabakh ont pesé. Poutine avait laissé agir l'Azerbaïdjan sans soutenir son allié arménien. Et puis deux, il faut dire que la Russie consomme toutes ses forces en Ukraine, elle se déplume par ailleurs. La nature, vous le savez, elle a horreur du vide. Les États-Unis réinvestissent toutes les sphères d'influence que les Russes délaissent. La Syrie est un exemple, le Venezuela dernièrement, peut-être bientôt Cuba. L'Arménie, en tout cas, sous l'œil très inquiet du voisin Ankara.
Est-ce qu'il y a encore des salles de cinéma en Afghanistan ? Est-ce qu'il y a des salles ?
Voilà, une question qui pourrait paraître surréaliste. Vous avez bien compris la réponse, hein, malheureusement évidente. Reste Berlin, toutefois, à partir de ce jeudi, pour voir des films afghans.
Et en particulier, celui de Shahrbanu Sadat, jeune réalisatrice, mais tout à fait confirmée. Son dernier long métrage, No Good Men, ouvre et émerveille ce soir, au moment où on se parle, Fabienne, la 76e Berlinale. Shahrbanu Sadat, elle est née à Kaboul, elle a été formée à Londres, elle a été révélée à Cannes, et elle filme l'Afghanistan de l'intérieur, et j'ai même envie de dire de l'intérieur des femmes, parce qu'elle montre leur ardeur dans un pays qui ressemble à une cage. Elle ausculte leur désir aussi sous les ombres. Et cette fois, voici, dit-on, le film que je n'ai pas encore vu, ce qu'il y a dans le ventre des hommes, tout juste avant le retour des talibans. Avec son film, 200 autres seront montrés jusqu'au 22 février sous la présidence de Wim Wenders. Peut-être pour nous rappeler que le cinéma, le sien, celui de Shahrbanu Sadat, ça ne rime pas qu'avec liberté, ça rime avec désir.
Merci beaucoup Guillaume Audat. Le jeudi, c'est la chronique qui parle d'IA garantie sans IA, la tech la première et Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18/20.
Et cette semaine, Stéphane, vous nous parlez de crise de l'attention et d'un article de The Atlantic qui fait sensation.
Et oui, titre de l'article, ces étudiants en cinéma qui ne peuvent plus rester assis pendant toute la durée d'un film. The Atlantic a interviewé une vingtaine de profs en cinéma aux États-Unis et ils sont unanimes, leurs étudiants ne sont plus capables de suivre un film en entier sans regarder leur téléphone. Si vous leur retirez, c'est une épreuve insoutenable. Un prof compare ses étudiants à des accros à la nicotine en sevrage. Plus ils passent de temps sans leur téléphone, plus ils s'agitent nerveusement et moins ils suivent le film. Conclusion de The Atlantic, la crise de l'attention n'est pas limitée au monde de l'écrit.
Donc alors pareil en France, on imagine, hein ?
On a demandé à un prof de cinéma, Laurent Julier, Institut du cinéma de Nancy, auteur d'une brève histoire du cinéma. Il montre des films à ses étudiants toutes les semaines. A-t-il les mêmes problèmes ?
Bien sûr, je suis le premier à me lamenter, comme tous mes collègues. Je veux dire, l'enseignement a beaucoup changé. Qu'on enseigne le cinéma ou les mathématiques, c'est la même chose. En face de soi, on a des jeunes gens qui sont soit sur leur téléphone portable, soit sur leur ordinateur.
Alors lui aussi, il est parfois tenté de balancer des plans-séquences bien lents dans la salle de projection.
Je serais de temps en temps enclin à faire de la provocation, c'est-à-dire à leur passer du Chantal Akerman avec des plans extrêmement longs, du cinéma contemplatif, etc., pour leur montrer que c'est bien aussi de maîtriser son attention, d'apprivoiser son ennui, c'est pas mal. Hein.
Les patates de Chantal Akerman, prends ça le jeune millénial. Êtes-vous homochrone ou hétérochrone ? Telle est la question pour notre prof de cinéma.
Le cinéma, c'est un média hétérochrone, c'est-à-dire qu'il impose sa propre durée. Comme le théâtre et l'opéra, et il faut rester assis pendant 1h30, 2h, 2h30. Et ça, c'est jouable peut-être dans certains milieu ou à une certaine époque, mais les jeunes gens sont habitués, eux, aux médias homochrones, des médias auxquels vous imposez votre propre temporalité.
Bref, les jeunes s'habituent à binge-watcher, découper, accélérer souvent, comme cet étudiant de The Atlantic qui reconnaît qu'il regarde les films en vitesse x2.
Oh là là, bref, le rapport au film a changé.
C'est comme ça et vous n'y pouvez rien.
Même pendant les séances de cinéma, maintenant, vous avez des gens qui sortent leur téléphone, qui discutent, qui mastiquent, qui entrent et qui sortent. C'est une grosse télévision, quoi. J'y vais plus, moi.
Mais vous ne le regrettez pas?
Si, bien sûr. Mais à quoi bon? Il faut trouver de nouvelles formes de consultation des films. Ou alors, il faut fréquenter les cinémathèques, où là, il y a encore une sorte de religion du cinéma. On ne mastique pas.
Bon, nous, on connaît des petits vieux qui font du bruit à la cinémathèque. Mais bref, le cinéma, c'est devenu une grosse télévision. Et du coup, les productions s'adaptent, comme le racontait récemment Matt Damon chez Joe Rogan.
Ça commence à avoir un effet sur les films. Par exemple, Netflix. Maintenant, ils nous disent « Bon, vous savez, ce serait pas mal si vous pouviez répéter l'intrigue 3 ou 4 fois dans les dialogues, parce que les gens sont sur leur téléphone pendant qu'ils regardent. »
Il faut répéter l'intrigue 3 ou 4 fois, le temps que ça rentre.
Donc, est-ce que regarder un film en gardant un œil sur son téléphone, c'est forcément la fin du monde?
Faut-il condamner le multitasking? Oui. C'est la question que nous pose Yves Citon, qui a consacré 2 livres à la crise de l'attention.
On sait qu'il y a des pratiques de visionnement ou de réception collective, comme ce qui se passe avec Discord, où je regarde un film et j'ai une application ouverte et donc je suis un peu distrait par l'application, mais peut-être que l'application, c'est qu'avec des copains, on discute et on discute peut-être du film ou peut-être d'autres choses, mais peut-être que ça interagit ensemble. Donc là, de nouveau, il faut rentrer beaucoup plus dans la granularité des situations avant de se dire « Ah, ces jeunes gens sont incapables de se concentrer sur quoi que ce soit et c'est la fin du monde. »
Yves Citon ne nie pas les problèmes de concentration, disons qu'il les interroge.
Ça m'agace un peu parce que ça présuppose que la seule bonne attention, c'est l'attention concentrée.
On peut faire attention sans se focaliser sur une seule tâche, voilà le message.
Et donc, c'est pas la fin de la civilisation?
De la civilisation, non, mais d'une civilisation, oui, et ça ne date pas d'hier.
Alors, je crois qu'il y a un philosophe qui s'appelait Wilhelm Flusser qui nous disait que depuis les années 1830, où se développe la photographie, ça commence à être la fin d'une certaine civilisation, qui est une civilisation qui a été basée sur la prévalence de l'écrit. On pense la causalité à travers ce genre de linéarité. En une phrase, elle commence ici, elle finit là, et aujourd'hui, nos écrans sont pleins d'images, de sons, etc., qui affolent nos esprits si nos esprits sont basés sur la linéarité. Donc oui, c'est sans doute la fin d'une civilisation. Flusser nous disait, les gars, il faut se réveiller.
Les gars, il faut se réveiller, Fabienne.
Et alors, à qui la faute?
Les petits jeunes de la FEMIS? Non, c'est le capitalisme de plateforme et sa fracturation de l'attention.
En anglais, le fracking. De même que pour extraire quelques gouttes de pétrole, on détruit de la roche. La situation attentionnelle du capitalisme de plateforme, c'est ça. On détruit nos capacités mentales pour en tirer quelques gouttes d'attention qu'on va vendre à des annonceurs.
Meta et Google sont en procès depuis lundi à Los Angeles, précisément pour ça, accusés d'avoir fabriqué à dessein l'addiction des plus jeunes.
Et donc, on en sort comment de cette addiction?
Pas d'inquiétude, Fabienne, le capitalisme a réponse à tout. Place your brick somewhere out of reach. Because brick is a physical. Je vous présente Brick, un petit appareil de détox numérique, $50. Il désactive la liste d'apps que vous avez sélectionnées quand vous passez votre smartphone dessus. Et si vous voulez les réactiver, il faut se lever pour repasser son smartphone dessus. Gros carton aux États-Unis.
Est-ce que vous pouvez me répéter l'intrigue de votre chronique? Parce que je suis pas sûr d'avoir tout bien compris.